Laudetur Jesus Christus.
La bande de Gaza a plus que jamais besoin d'aide humanitaire. Dans un territoire quasiment entièrement détruit, les habitants manquent de tout. L'ONU doit lancer demain jeudi un nouvel appel aux dons pour aider en particulier la population gazaoui. Jour de vote en Croatie ce mercredi. Les législatives opposent le Premier ministre sortant et le président croate qui n'a pas quitté ses fonctions. Nous retrouverons notre correspondant à Zagreb. À la une de ce journal également, le trafic de drogue qui explose au Sénégal. Une saisie record de cocaïne a eu lieu lundi en provenance du Mali. Nous irons aussi sur les îles Salomon, dans le Pacifique, où des élections ont lieu également ce mercredi. Et l'influence régionale de la Chine plane sur le scrutin, on le verra. Enfin, dans notre dossier, gros plan ce matin sur l'archipel des Tuvalu, très vulnérable au changement climatique. L'Australie accueillera des réfugiés climatiques en provenance de ce petit archipel du Pacifique. Un traité migratoire inédit a été signé entre les deux pays. Décryptage avec notre invité.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, l'ONU doit lancer demain un nouvel appel aux dons pour aider la population palestinienne de Gaza et de Cisjordanie. Selon le Bureau humanitaire des Nations Unies dans les territoires palestiniens, il faut près de 3 milliards de dollars pour aider 3 millions de civils. 90% des besoins sont bien sûr pour la bande de Gaza, toujours pilonnée par l'armée israélienne. Les besoins sont de plus en plus importants à mesure que la guerre se poursuit dans l'enclave, où malgré quelques améliorations, l'aide humanitaire arrive toujours au compte-gouttes. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
L'armée israélienne poursuit sans relâche ses bombardements dans la bande de Gaza, en particulier contre les camps de réfugiés de la région centre, et procède à des opérations terrestres limitées, notamment dans la région nord, déjà totalement dévastée par 6 mois de bombardements intensifs. Les soldats ont forcé ces derniers jours des centaines de familles déplacées à partir de 2 écoles dans lesquelles elles s'étaient réfugiées, après avoir effectué des interrogatoires systématiques des adultes présents et arrêtés des dizaines de personnes, dont des adolescents. Cette région nord continue par ailleurs d'être la plus affectée par la famine. L'acheminement et la distribution de l'aide humanitaire continuent en général d'être largement entravés par la puissance occupante israélienne, même si des améliorations ont été signalées, avec notamment la réouverture de boulangeries dans la ville de Gaza. L'Agence des Nations Unies OCHA a précisé pour sa part que 41% de ces convois destinés aux centaines de milliers d'habitants de la région nord avait été soit refusé d'entrer, soit empêché d'arriver à destination entre le 6 et le 12 avril dernier. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
À New York, le Conseil de sécurité se réunira demain pour étudier une demande des Palestiniens de devenir membre à part entière des Nations Unies. L'autorité palestinienne avait lancé cette demande en 2011, mais le veto américain a jusqu'ici empêché toute concrétisation de cette initiative. Et puis concernant la menace iranienne, les autorités israéliennes préparent eux toujours une riposte aux tirs de missiles et de drones du week-end dernier, et ce malgré la mise en garde, notamment américaine, de ne pas élargir le conflit. Washington, pour sa part, tout comme l'Union européenne, ont annoncé renforcer, eux, leurs sanctions vis-à-vis du régime de Téhéran. Des milliers de personnes dans les rues de Tbilissi hier soir, la capitale géorgienne, elles protestaient contre une loi votée au Parlement visant les agents de l'étranger. La nouvelle mouture du texte est calquée sur une loi russe et permettrait de réduire la liberté des médias indépendants et de la société civile, craignent ses détracteurs. La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, qui s'oppose au gouvernement, a dénoncé une provocation direct et une stratégie russe de déstabilisation. En Croatie, les citoyens en âge de voter sont appelés aux urnes ce mercredi. Les élections législatives ont la particularité de mettre aux prises le Premier ministre sortant, le conservateur Andrej Plenković, soupçonné de corruption et en chute libre dans les sondages, au président croate, toujours pourtant en poste, le social-démocrate Zoran Milanović, qui a mené une campagne aux accents très populistes au point que certains le qualifient de Trump des Balkans. Les précisions de notre correspondant à Zagreb, Simon Rico.
Les débats ont été dominés par le duel entre Andrej Plenković, à la tête du gouvernement depuis 2016, et son prédécesseur, le président Zoran Milanović, qui espère retrouver son fauteuil de Premier ministre. En tant que chef de l'État, il n'a pas le droit d'être candidat, mais c'est bien lui qui mène de facto la campagne du Parti social-démocrate. Sa coalition, pompeusement nommée les Rivières de la Justice, tire à boulets rouges sur la corruption des conservateurs, alors qu'une trentaine de ministres ou de secrétaires d'État d'Andrej Plenković ont dû démissionner éclaboussés par des scandales. Selon les derniers sondages, les deux partis qui se partagent le pouvoir depuis l'indépendance sont donnés au coude à coude et difficile de savoir qui l'emportera. Les deux partis d'extrême droite qui arrivent derrière pourraient bien jouer les faiseurs de rois et c'est visiblement vers elles que semble lorgner le président Milanovic pour gouverner avec son positionnement anti-système et anti-migrant qui prend à contre-pied les racines de son parti, héritier de la Ligue des communistes yougoslaves. Mais la Croatie pourrait bien se révéler ingouvernable après ce scrutin, le premier de la super année électorale. Suivront ensuite les européennes et la présidentielle. À Zagreb, Simon Rico pour Radio Vatican.
Partons au Sénégal à présent, où a eu lieu cette saisie de drogue impressionnante lundi dernier. Plus d'une tonne de cocaïne ont été saisies par les douanes à la frontière avec le Mali. La drogue était dissimulée dans le double fond d'un camion frigorifique immatriculé au Mali. Une enquête est en cours pour élucider cette saisie, la plus importante réalisée par voie terrestre dans l'histoire du pays. À Dakar, Abdoulaye Diédou.
Le coup de filet remonte au 14 avril dernier dans la soirée et porte la signature des agents de l'administration douanière en faction au poste de Kidira, une localité située au sud-est du Sénégal, frontalière avec le Mali. L'impressionnante cargaison de drogue dure avait pourtant été soigneusement dissimulée dans le double fond d'un camion frigorifique immatriculé au Mali voisin. C'est aux environs de 20 heures que le camionneur qui convoyait la cargaison de drogue dure a atteint le poste de contrôle de Kidira. Les agents des douanes qui procédaient à une méthode de ciblage des véhicules ont jeté leur dévolu sur le camion malien en question apparemment vide qui sera soumis au contrôle du scanner. L'exercice sera sanctionné par la découverte du double fond suspect. La perquisition du camion a conduit à la découverte des 948 plaquettes de cocaïne qui vont afficher à la pesée un poids total de 1137 kg de cocaïne d'une valeur marchande estimée à environ 91 milliards de francs CFA. Le convoyeur de drogue est, selon nos sources, parvenu à filer à l'anglaise. Notons qu'à la faveur d'une délégation judiciaire qui sera incessamment diligentée par le parquet local, les policiers de la division opérationnelle de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants vont entamer l'enquête. Abdoulaye Diédou, Dakar, Radio Vatican.
En Haïti, les 9 membres du conseil présidentiel de transition ont été nommés hier par un arrêté officiel. On y retrouve des anciens diplomates, un médecin, l'ancien président du Sénat ou l'ancien gouverneur de la Banque centrale haïtienne. Ce conseil a pour objectif de rétablir l'ordre public et de relancer les institutions dans un pays toujours gangréné par la violence des gangs armés. La junte birmane sort de prison l'ancienne opposante Aung San Suu Kyi pour la placer en résidence surveillée. L'ancien président birman Win Myint a également subi le même sort. Les deux leaders avaient été renversés lors du coup d'État le 1er février 2021. À l'occasion du nouvel an birman, plus de 3000 prisonniers ont par ailleurs été amnistiés ce mercredi. Jour de vote pour le petit archipel des Salomons dans le Pacifique, île voisine de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où est attendu le pape François au mois de septembre. Une élection nationale cruciale pour la sécurité régionale se joue aujourd'hui. L'un des enjeux du scrutin, Delphine Allaire, est de savoir si le pays renforcera ou non ses liens avec la Chine, remodelant ainsi les cartes de la grande bataille d'influence dans la région.
Exactement, Olivier. Le Premier ministre sortant Manassé Sogavare s'est engagé à renforcer les relations avec Pékin s'il est réélu. L'opposition, composée au choix d'un ancien juriste de l'ONU ou d'un militant des droits humains, elle, souhaite réduire l'influence chinoise sur l'archipel. Pour vous dire le degré de tension, l'ambassade de Chine aux Salomons a érigé en vitesse une clôture devant ses locaux pour parer aux probables violences. Par le passé, des émeutes avaient déjà ravagé le quartier chinois de la capitale des Salomons, Honiara. Des policiers venus d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Papouasie-Nouvelle-Guinée viennent cette fois prêter main forte au gouvernement pour sécuriser le vote, pas évident dans cet archipel pauvre, fait d'une centaine d'îles volcaniques et d'atolls coralliens où les bulletins sont apportés par voie maritime ou aérienne. Il s'agit donc, Olivier, de la première élection depuis que les îles Salomon ont rompu leur lien avec Taïwan en 2019 et conclu un pacte de sécurité avec Pékin en 2022. Son contenu est opaque, mais Washington et Canberra craignent qu'il ne pose la première pierre d'une base militaire chinoise permanente dans le Pacifique Sud, qui pourrait changer la donne en matière de sécurité régionale et ferait donc une nouvelle fois des petites îles du Pacifique l'arrière-cour des grandes puissances.
Merci beaucoup Delphine Allaire. Avant de passer à notre dossier, sachez que le pape a présidé la deuxième journée de travail d'une nouvelle réunion du C9 hier, le Conseil des cardinaux. Il y a été question notamment du rôle de la femme dans l'Église ou de la synodalité. Le pape et les cardinaux qui se sont aussi inquiétés des scénarios de guerre et de conflits, en particulier au Proche et Moyen-Orient et en Ukraine. La prochaine réunion du C9 se tiendra au mois de juin. Le grand continent bleu était à l'honneur de la 9e conférence mondiale Notre Océan. C'est lundi et mardi organisée à Athènes. Seule conférence à aborder toutes les questions liées aux océans en même temps. Une perspective intégrale, chère au Saint-Siège. Elle a accueilli dans la capitale grecque des délégations de pas moins de 120 pays. Des engagements dépassant 10 milliards de dollars ont été pris, annoncé le Premier ministre grec Mitsotakis. Le patriarche Bartholomée de Constantinople, très engagé sur la protection de la création, y est intervenu. Des projets concernant la pêche durable, la pollution, la sécurité maritime ou encore les zones protégées ont été par ailleurs détaillés. Une réalité et des défis quotidiens pour l'océan Pacifique, le plus vaste du globe. En Océanie, la grande barrière de corail subit actuellement son pire épisode de blanchissement et certains archipels sont menacés d'engloutissement par la montée des eaux. Pour y remédier, celui des Tuvalu a signé à la fin du mois de mars un traité de migration inédit avec l'Australie. Canberra accueillera chaque année un certain nombre d'insulaires, une révolution juridique et géostratégique sur laquelle revient notre invité ce matin, Géraldine Gironneau, professeure de droit public international à Paris-Saclay.
Cette menace est singulière pour un certain nombre de territoires atolliens, c'est-à-dire de territoires qui sont entièrement composés de formations coralliennes de très basse altitude, où il n'y a aucun point haut où se réfugier. On trouve les îles Marshall qui sont dans cette situation, Kiribati, Tokelau aussi, qui n'est pas un État proprement parlé, mais un territoire spécial de la Nouvelle-Zélande, et aussi Tuvalu, qui serait d'ailleurs, selon les experts, le premier État susceptible de voir son territoire disparaître entièrement. Donc, il est probable que ce scénario du pire, malheureusement, arrive pour Tuvalu et que cet État se voit contraint de relocaliser l'entièreté de sa population. Cette perspective pose des questions juridiques inédites quant à savoir si cet État continuerait d'avoir une existence malgré tout, par exemple s'il continuerait d'avoir un siège à l'Organisation des Nations Unies ou au sein d'autres organisations internationales. Et il est donc important pour le gouvernement de Tuvalu d'anticiper ce scénario du pire.
Que gagne l'Australie avec ce traité ?
Il y a quand même un certain cynisme dans le contenu de ce traité qu'on se doit d'observer, dans la mesure où il ne contient aucun engagement de l'Australie par rapport au changement climatique, par rapport à ses émissions de gaz à effet de serre, alors que l'Australie contribue de façon substantielle à ces émissions. Finalement, ce qui pourrait se transformer en un gain pour l'Australie, parce qu'il y a l'avantage stratégique sur les accords de sécurité et de défense, mais il y a aussi, sans que ce soit écrit, des interrogations quant à savoir qui exercera le contrôle sur les zones maritimes sous juridiction étatique qui sont aujourd'hui sous juridiction de Tuvalu, qui possède en vertu du droit de la mer une immense zone économique exclusive qui fait 29 000 fois son territoire terrestre et qui pourrait continuer d'exister, mais alors peut-être peut-on imaginer que ce serait l'Australie en vertu de ce genre d'accord qui en aurait le contrôle effectif.
Canberra assure que l'État des Tuvalu conservera son indépendance. Comment est-ce possible et garanti ?
En droit international, il y a trois éléments constitutifs de l'État. Il faut un territoire, une population à un gouvernement. Les effets du changement climatique et en particulier la montée des eaux interrogent ce triptyque parce que des États apparaissent, disparaissent, ça a été le cas dans l'histoire, mais jamais parce que leur territoire disparaissait. Donc c'est une question qui est complètement nouvelle. Il n'y a pas aujourd'hui de réponse précise et définitive. Néanmoins, on s'oriente vers une reconnaissance du principe d'une présomption de continuité de l'État en faveur de laquelle pourraient être imaginées d'autres formes d'États, des États déterritorialisés et dont on pourrait imaginer du coup une existence virtuelle. Alors c'est ce qui a été amorcé justement par Tuvalu qui avait annoncé lors d'une COP précédente la création d'un site internet dans la métaverse avec une qui existe hein, d'ailleurs le site existe avec une reproduction en trois dimensions du territoire de Tuvalu mais aussi un site au sein duquel on mettrait dans le futur à disposition des services étatiques pour les ressortissants qui auraient été déplacés. Cette annonce, elle était symbolique pour alarmer la communauté internationale sur la situation de ces États dont le territoire est amené à être submergé. Mais ça pourrait aussi être le support de cette continuité virtuelle dont le territoire terrestre aurait été englouti.
Voilà, interrogé par Delphine Allaire, Géraldine Giraudeau, professeure de droit public international à Paris-Saclay, spécialiste des îles du Pacifique, atteint l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans 10 minutes, vous pourrez suivre en direct l'audience générale du pape François. Je vous souhaite une excellente journée.